Merci, merci à tous. Je pense qu'on va passer à notre dernière intervention.
Et sont effectivement imprégnés
de leur particularité. Donc ça me semble vraiment très important aujourd'hui de revenir et de replacer les choses dans une juste réalité. Et alors c'est presque une question qui s'adressera peut-être aux médecins, mais aujourd'hui je reviens beaucoup, je trouve qu'on y gagnerait à peut-être se replacer aussi dans du diagnostic fonctionnel, de laisser les médecins et les chercheurs faire leur travail, et certains le font très bien, plutôt que de voir sur Facebook des gens qui, a priori, arrivent de nulle part, mais sont déjà des grands chercheurs ou des grands spécialistes. Vous savez que maintenant, en fait, vous n'avez plus besoin d'aller dans un CRA pour un diagnostic, vous allez sur Facebook. Voilà, on vous diagnostique, on vous dédiagnostique sur Facebook. Et le système, par contre, fonctionne comme ça. Je reviens sur la stratégie autisme qui a, à mon avis, même si tout n'est pas parfait, dans ces projets, cette importance de repartir sur la courbe développementale des enfants. Il y a le diagnostic, et un diagnostic, c'est une expertise pluridisciplinaire, etc. Par contre, le fonctionnel, le quotidien, notre réalité, est-ce qu'il y a des problèmes de communication, est-ce qu'il y a des problèmes d'interaction, des difficultés somatiques, ce que veulent les personnes et nos familles, c'est cette facilitation dans le quotidien, c'est cette qualité de vie. Et je crois que parfois, j'observe des confusions entre le fait effectivement de se mobiliser, mais des fois excessivement, uniquement sur l'aspect diagnostic médical et d'en oublier la personne. Alors, je ne dis pas que le diagnostic médical n'est pas important. On s'est longtemps battu pour, et il faut continuer à se battre pour qu'on ait un diagnostic médical. Mais je trouve ça très intéressant, vous voyez, que dans la stratégie nationale, notamment, enfin, avant le diagnostic, on donne les moyens au repérage et au dépistage et on intervient sur des courbes développementales atypiques. En France, on est bon dans les soins, on est moins bon dans la prévention. La prévention est pourtant une étape essentielle qui peut prévenir ou qui peut potentialiser justement les courbes développementales. Donc ne l'oublions pas. Reconnaissons effectivement les compétences des personnes autistes. Elles en ont et elles en ont à tout niveau de fonctionnement. C'est-à-dire que là encore, n'associons pas les mots à d'autres mots. C'est pas bon plus aspergeur. C'est même une personne qui présente une forme d'autisme sévère a des forces. Enfin, ça n'existe pas un être humain qui n'a que des déficits et que des manques. Par contre, il faut savoir les repérer. Il faut savoir aider la personne à les utiliser, certainement même, et ça on le fait très peu malheureusement en France, en quoi ce qui fonctionne bien chez une personne peut aussi devenir en soi et peut participer à la compensation. On a tendance à toujours voir les manques et à pouvoir les combler. Et ce qui fonctionne, on ne l'utilise pas assez pour potentialiser l'évolution de la personne. Donc c'est vrai que ça peut vous sembler peut-être un peu étrange de la part d'une personne qui présente elle-même un autisme plutôt dit de haut niveau, mais peut-être que justement l'expérience, alors vous disiez tout à l'heure, le meilleur expert, c'est la personne autiste elle-même, c'est un expert parmi les autres. Je crois qu'il faut aussi rester humble et faire attention à cette, je me permettrai de parler peut-être de dérive.
C'est un expert sur son propre cas, au fait. Sur son propre cas, sur son vécu. Il a l'avantage du vécu.
Sur son propre cas. Ça, c'est une nuance qui est très importante, parce que c'est ce qui va peut-être faire la différence. Aujourd'hui, on parle effectivement, et je suis très impliquée dedans, donc c'est tout un projet, je pense, tout à fait nécessaire. On parle des experts d'usage. Dans d'autres types de maladies ou d'handicap, on parle des patients experts. La France, on est très en retard. On ne reconnaît pas l'expertise d'usage, il faut la reconnaître. Il y a vraiment des formations. Par contre, il faut encadrer tout ça. C'est-à-dire que, et vous dites très bien, là, vous l'avez précisé, oui, j'ai le droit de dire que je suis experte de mon vécu, de ma vie. Mais ma vie, ce n'est pas la vie de tout le monde. Et je crois que dans cet accompagnement des experts d'usage, il faut aussi faire peut-être à un moment donné une différence entre ce qui est de l'ordre du témoignage, et un témoignage peut être tout à fait intéressant et porteur, et ce qui est de l'ordre de la formation, par exemple. Donc, nous ne faisons pas cette économie de former nos experts d'usage. Mais tout comme les parents sont aussi à leur niveau des experts d'usage et se sont formés. Donc ça, je crois, vous voyez, ça fait partie pour moi de ces exigence, d'une mesure à avoir qui peut-être actuellement nous manque un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup d'excès. Alors, il en faut parfois d'excès, mais à un moment donné, il faut savoir doser pour que toute cette émission d'informations, de nouvelles personnes qui arrivent sur la scène, se fasse de manière articulée, de manière cohérente. Ce n'est pas les personnes autistes contre les parents, ce n'est pas les parents contre les professionnels. On n'y arrivera pas comme ça. Donc, ça me semblait vraiment important, effectivement, de pouvoir revenir sur cette cohésion à avoir, sur cette justesse. Je crois qu'à la limite, peut-être dans la salle, à ce titre-là, on est tous experts. Voilà. Donc, quelque chose fait partie de son enfant, d'une tranche de vie, un cœur de métier. Donc, il faut effectivement arriver à mutualiser, à capitaliser sur ces nouvelles expertises, parce qu'avant on n'avait pas, maintenant on a. Mais je sais que même moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans à faire des formations qui étaient plus d'ailleurs des témoignages, j'ai vu aussi avec le recul le poids que pouvait avoir des fois l'impact de mes paroles sur les parents. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'Estef en miniature dans toute la France. Donc parce que j'avais exprimé à un moment donné que j'aimais bleu, tous les enfants étaient obligés d'aimer bleu. Et comme je ne supporte pas le rouge, il n'y avait plus d'autres pas. Donc là, voilà, il y a un impact. Je pense qu'on a une responsabilité. C'est important aussi de se former et de savoir le transfert de compétences et le transfert de connaissances, ça s'apprend. Le diagnostic, c'est pas un diplôme. Si on veut être formateur, ben ça s'apprend d'être formateur pour son autisme. Et là, on va effectivement avoir un nouveau challenge, et c'est plutôt un beau challenge, et il va falloir le relever, mais pour qu'effectivement, on arrive dans un système qui ait beaucoup plus de ressources et qu'on soit beaucoup plus en cohésion. Une des choses que je souhaitais également signaler, c'est que c'est très important pour moi de montrer, de révéler les forces des personnes autistes, quel que soit leur niveau de fonctionnement. Il ne faut quand même pas oublier, même si peut-être que le mot gêne certains de mes pairs, que l'autisme reste un handicap dans le sens où, à tout niveau de fonctionnement, il y a quand même une difficulté d'adaptation à son environnement. Le cœur de la définition du handicap, c'est ça. Donc moi, je peux entendre hein, qu'on me dise « moi je suis Asperger, je suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai une voiture, j'ai un travail, et quand j'ai un problème, je trouve la solution par moi-même. » Je ne suis pas médecin. Peut-être que cette personne a un fonctionnement perceptif, neurologique particulier, mais il n'est pas en situation de handicap. Et j'en arrive à me questionner en me disant peut-être qu'à un moment donné, il va falloir différencier le diagnostic de la situation de handicap. Il n'y a pas à faire des guerres de diagnostic. C'est juste que est-ce que la personne est en situation de handicap ou bien est-ce que finalement son fonctionnement particulier, ce qu'on va appeler au sens très large, en appelant la neurodiversité, impacte l'invalide dans son quotidien ou pas. Moi, oui, je suis choquée quand j'entends un de mes pères dire devant un média que l'autisme est une originalité. Je ne vis pas l'autisme comme une originalité et j'ai un bon niveau de fonctionnement. Donc, attention à ne pas rentrer dans des guerres stériles, ne pas juger, laisser aux experts faire leur travail, mais je dis très souvent qu'on a les mêmes besoins quand on est une personne autiste, mais qu'on n'a pas besoin des mêmes moyens. Et les moyens, c'est important. J'ai des besoins en termes de communication. Mais mon niveau de fonctionnement, ma capacité d'oralisation, de verbalisation, ma cognition, me permet de compenser mes difficultés de communication différemment que si j'avais une déficience intellectuelle sévère associée, que j'étais personne non verbale. On ne peut pas ne pas prendre en compte ça. Donc effectivement, je crois qu'il y a peut-être une nouvelle responsabilité du citoyen, mais aussi du corps médical, je pense, pour être dans un meilleur ciblage des besoins des personnes en situation de handicap et ne pas oublier qu'il n'y a pas de diagnostic plus noble que d'autres. On reproche parfois peut-être à certaines personnes d'aller chercher un diagnostic d'autisme.
Oui, mais peut-être que, alors, moi je veux bien, c'est une mode. Je me dis quelque part, quelqu'un qui s'acharne à vouloir absolument un diagnostic, il a peut-être un vrai problème. Il y a peut-être un nouveau diagnostic à introduire, qui serait les chercheurs compulsifs de diagnostic. Dans la majorité, par contre, ce que je vois arriver, ce sont des personnes, effectivement, qui ne sont peut-être pas autistes, mais qui ont besoin de solutions, et comme il y a une certaine médiatisation autour de l'autisme, il ne faudrait pas qu'à un moment donné, ça soit plus noble d'être autiste que d'être bipolaire ou schizophrène. Et là, j'en appelle à nos centres experts, notamment, on ne claque pas les portes violemment sous prétexte que la personne n'est pas autiste. Je crois des devoirs des médecins de faire peut-être des diagnostics différentiels. Et je crois que là, on arrive peut-être des fois aussi, et là, je parle vraiment du quotidien de ces adultes. Je ne me permettrai pas de dire si diagnostic, pas diagnostic. Je dis juste qu'il y a une façon d'accueillir, d'entendre, d'orienter, d'accompagner toute personne en situation de handicap ou de maladie psychique, si c'est une maladie psychique, qui va aussi peut-être contribuer à éviter certaines dérives. Et voilà, c'est vraiment un message fort que je voulais faire passer, parce que je crois que les personnes à haut niveau de fonctionnement sont en besoin de diagnostic posé correctement, sont en besoin d'accompagnement spécifique. Mais il y a aussi un spectre très large qui nécessite aussi cet accompagnement. Vous voyez, on parlait que la stratégie nationale va ouvrir un meilleur dépistage. On va chercher où sont les adultes autistes. Un Asperger, il peut taper une porte. Une personne autiste sévère, il y a moins de chances qu'elle demande une consultation au centre expert. Je vais être particulièrement vigilante pour voir un petit peu quelle va être la composition de ces adultes qu'on va détecter. Parce qu'aller se faire diagnostiquer, c'est déjà une démarche sociocommunication. Donc soyons vigilants aussi à ça, parce que j'ai peur que, entre guillemets, les plus concernés soient les moins repérés dans cette histoire. Voilà, donc c'était vraiment les messages forts que je voulais faire passer aujourd'hui avec, à mon avis, au-delà de tout ce qu'on peut lire, voir, entendre, les guerres aux chaumières, de part et d'autre, n'oublions pas la réalité, le vécu des personnes. On peut effectivement avoir différentes formes d'autisme. Le plus important, c'est la qualité de vie et l'autonomie. Et là, quand on est sur ces critères-là, quand on n'est plus sur autisme modéré, léger, qualité de vie, autonomie, vous allez voir que ça rebrasse un petit peu la perspective qu'on a. Moi, j'ai des amis qui ont un autisme dit modéré, qui sont en ISAT, qui sont plus autonomes sur certains points que moi, et en tout cas, ça c'est sûr, plus heureux. Et en même temps, il ne faut pas nier que les personnes qui cumulent les troubles associés, les handicaps, restent des personnes extrêmement vulnérables, et qu'on ne doit pas faire n'importe quoi par rapport à ce virage inclusif qu'on souhaite tous. J'espère, je pense que personne ne remet en question, le fait d'aller vers une société plus inclusive. Par contre, n'ayons pas un raisonnement basique. Et je crois que le sondage le plus cupide que j'ai vu, c'est être pour ou contre la désinstitutionnalisation. Elle ne veut rien dire. Bien sûr que dans le meilleur des mondes, demain, que tout le monde ait sa place dans une société ouverte, tolérante et qui nous mobilise. C'est évident. Vu comme ça, le sondage est bouclé. Est-ce que cette société est prête? Alors, on peut le reprocher de ne pas être prête, mais c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité. On ne peut pas réfléchir qu'en amont et en aval. C'est comment on prépare cette transition. Et si tout le monde se réunit plutôt pour préparer cette transition, on aura bien plus de chances de trouver une place citoyenne. C'est la seule fois, et le seul cas où j'utilise le terme de place, que je crois que ça doit sortir, ça. À part la place du citoyen, ne me parlez plus de place. Parlez de projet, parlez de parcours, et vous verrez que du coup, ce qui est mis en place pour les personnes autistes et en situation de handicap s'inscrit dans une continuité. Je pense que les gens commencent à le réaliser, mais pas suffisamment. Vous voyez, la stratégie nationale, c'est qu'on s'occupe des adultes. Alors oui, ils viennent de réaliser que les enfants grandissaient. Et alors là, c'est paniquant parce qu'on est en train de leur dire qu'on vieillit. Et qu'il y a des femmes. Le pire, comme aujourd'hui en France, c'était une vieille femme autiste. Là, accumulées, mais c'est une réalité. Ça veut dire que pour bien travailler, il faut s'occuper des enfants en ayant des gens en tête qui vont devenir des adultes. Et il faut s'occuper des adultes, déjà en se disant que demain ce sont des personnes vieillissantes et que ça engendre d'autres besoins et d'autres moyens. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Steph, de nous faire partager tes opinions, comment dire, fondées sur l'expérience et sur la raison. Et puis qui sont toujours évolutives. Je t'écoute depuis longtemps et je vois que, comment dire, en fonction de ce que tu vis d'ailleurs, parce que de ta maturité et puis de tes partages, parce que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup et qui écoute beaucoup. Merci en tout cas. Moi je dirais que, alors ça sera mon petit message personnel, vous voyez, bon, les témoignages sont absolument cruciaux, c'est-à-dire que, et toujours renouvelés. L'action, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis le début, agir ensemble, faire ensemble, ça nous aide à trouver des solutions concrètes. Mais je dirais qu'au-delà de la vie du quotidien, il y a, vous savez, des scientifiques. J'ai parlé au nom des scientifiques. Il y a des scientifiques qui sont vraiment très très prêts à nous aider. Et j'ai entendu quelques questions, quelques remarques tout à l'heure qui sont vraiment l'expression même de cet appel à rentrer dans notre communauté. Alors, les chercheurs, il n'y en a sans doute pas beaucoup aujourd'hui. J'aurais préféré qu'il y en ait plus. Hier, j'étais à Marseille, vous voyez, je faisais une conférence sur l'autisme. Il y avait un parterre de chercheurs qui étaient des seniors et puis des juniors. Et ils sont venus me voir et m'ont dit vraiment, nous, ça nous intéresse. Alors je leur ai dit, commencez par faire venir une personne autiste dans votre labo. Puis vous allez voir, vous allez avoir des tas d'idées. De ceux qui font de la culture cellulaire pour regarder comment les neurones se connectent les uns avec les autres. Il y a eu un topo sur la prédiction bayésienne de la motricité de la larve de drosophile qui m'a beaucoup intéressée. Parce que la motricité sociale, très difficile à mesurer. Je me suis dit, tiens, voilà un scientifique qui va nous aider à mesurer comment on fait pour communiquer entre personnes. Vous voyez. Bon, voilà. Alors, je pense que la chercheuse et le chercheur, c'est une chercheuse, Pierre-Yves Parlin, vous savez pas très loin, qui mesure la motricité de la larve, de drosophile, avec un système de prédiction bayésienne, il y a quelqu'un ici qui comprend ce que je veux dire, et sûrement d'autres ici, et bien, s'il y a une personne autiste dans son labo, ça va donner du punch. Donc moi, je suis pour en faire chacun de ça.
J'étais extrêmement déçue que ce qui est depuis le départ
tu dis des choses extrêmement justes. Et je vais aller à l'encontre de ce qu'on m'a conseillé, c'est-à-dire de te côtoyer, justement, avec, de faire une force avec toi, avec des capacités hors du commun au niveau scientifique. Et je suis une femme autiste vieille. Je n'ai pas été diagnostiquée à temps. Il faut vous rendre compte de ça. Et ma capacité, c'est que j'étudie depuis l'âge de 2 ans les sciences et que je peux faire la transmission de vulgarisation entre les chercheurs et les médecins. Et c'est ça mon intérêt. Et l'intérêt de tout le monde pour qu'on participe justement à cette construction. Les parents ont une expertise, effectivement. Nous, autistes, nous sommes toutes différentes. Je suis différente de Stéphanie. Mon autisme ne se voit pas, ce jeune homme est différent. Nous avons tous quelque chose justement à apporter dans les connaissances de notre hypersensorialité que vous ne pouvez pas connaître, que les chercheurs ne peuvent pas connaître. Et mon type d'autisme est aussi différent de plein d'autres types d'autisme. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on fait confiance, comme Cédric Villani m'a fait confiance, on va pouvoir aussi mettre à l'honneur les femmes autistes. Et les intégrer dans différents types de programmes, et c'est ce que je souhaite vraiment faire, et grâce aussi avec le courage de Tiziana Adala, qui m'a fait confiance la première, mais aussi de Stéphanie qui a témoigné en tant que femme. C'était extrêmement important, et de façon juste, et pas de façon pour son intérêt personnel, comme il est dit par certaines personnes qui sont certes autistes. Mais ce n'est pas une bonne chose de dénigrer les personnes. Voilà, je trouve que c'est extrêmement important, cette bienveillance qu'on doit avoir entre nous. On n'est pas là pour... on a tous des différences, comme tous les êtres humains ont des différences. C'est ce que je voudrais aussi dire. Et on peut travailler sur le vocabulaire. Par contre, c'est ce que je reproche aux médecins, et c'est avec ça que je voudrais travailler avec vous, avec plaisir. Merci.
Merci, oui, il y avait une petite... Oui, je vous apporte moi-même du micro, c'est quand même bon. Quoi.
C'est une question, une remarque. Je vous remercie d'avoir organisé ce colloque. Je suis parent d'un adulte autiste de 31 ans. Moi, j'attire l'attention, j'ai envie de dire, de la fédération et des associations qui s'occupent de la gestion de l'institution pour personnes autistes. Je suis très contente d'entendre des choses, ça avance, la recherche avance, on a de l'espoir sur de l'inclusion et un mieux vivre, mais je pense, je trouve, pour être utilisatrice à travers mon fils, il y a un énorme décalage sur le terrain, dans les institutions. J'ai la chance d'avoir un enfant qui est dans une institution parce que je me dis qu'un jour je ne pourrai plus l'accueillir. Et je pense qu'on oublie ça beaucoup, on en a un petit peu parlé, les enfants, les personnes adultes autistes vieillissent comme les autres. Moi je trouve qu'il y a un énorme décalage pour l'application sur le terrain des bonnes pratiques qui ont été énoncées. Et voilà, je m'inquiète que une fois que les institutions elles sont créées, eh bien, on ne s'occupe pas forcément de suivre sur les bonnes pratiques qui sont dedans. Et j'aimerais que, par exemple, je peux donner un exemple, en dehors du CERA, j'ai jamais vu de d'évaluation. Tout à l'heure, j'ai vu échelle de communication, de compétences, tout ça. Moi, je me dis, mon fils, il est toujours passé à côté. Et c'est lui qui s'adapte au terrain, c'est pas le terrain qui s'adapte à lui. Et quand j'essaye de dire un projet un peu construit, parce que j'estime que ce qu'on m'offre, ce qu'on me donne jusqu'à présent, c'est surtout à lui qu'on le donne, mais je reçois derrière lui. Ça me paraît totalement insuffisant pour permettre d'adapter des moyens à ce qu'il demande. Il ne va pas bien, ça ne se passe pas bien. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire et je n'ai pas du tout entendu aujourd'hui des moyens financiers qui me paraissent comme le nerf de la guerre. Et chaque fois que je dis, voilà, par exemple, je souhaitais, il y a beaucoup le foot, le rugby, tout ça, je me disais plutôt qu'il tourne dans sa tête en rond des résultats, ce serait bien qu'il en fasse. Il faudrait une journée, enfin plusieurs heures pour qu'il rejoigne un centre de club sportif, plusieurs heures d'aller, plusieurs heures retour, c'est pas possible quoi. Donc finalement, pour des questions de moyens financiers, pour des questions, le personnel ne me paraît pas toujours formé, on a parlé d'expertise, moi je n'en rends pas beaucoup l'expertise, un petit peu. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, qu'on n'oublie pas ce qui est déjà fait, ce qui est déjà en route, et qu'il y a des évaluations à faire et des réajustements. Et voilà, je
Merci pour votre intervention. Je vais y répondre un tout petit peu parce que c'est là, ça parlait de ces artistes, de veiller aux bonnes pratiques, on va dire ça comme ça. Tout ce qu'on a appris encore aujourd'hui ensemble, je pense déjà, c'est les parents se battent de façon individuelle, associative, créer des micro-projets. Créer des gros projets. Alors, c'est vrai que ce que je disais au départ, Cézanne, ça a plus de 55 ans. Donc, effectivement, les projets, on en a fait. Donc, il y en a beaucoup qui sont là depuis longtemps. Mais, et on a deux aspects. On est effectivement en train de passer parce qu'on est parents. On a créé des projets et maintenant, on les gère. Donc, c'est très mauvais des gestionnaires. On fait comme on peut. On essaye de ne pas être de mauvais gestionnaires. On a travaillé à chaque fois dans toutes les recommandations de bonne pratique, que ce soit les travaux qui ont été faits pour les enfants, adolescents, adultes. On a été présents pour apporter notre voix de parents, militants, etc. Mais dans nos établissements aussi, ça a été, et c'est toujours en cours de se dire, de se repositionner. La fédération a un mode de fonctionnement qui est en réseau. Par exemple, pour donner un exemple, on essaye de se réunir entre militants et professionnels pour qu'ils entendent notre parole de parents et qu'ils nous expliquent leurs problèmes, etc. Et qu'ils nous disent comment faire pour que ça fonctionne comme nous on souhaite et que les moyens soient bien mis en place pour vous, parce que c'est quand même. Comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'argent, c'est pas forcément les associations qui vont. Pour autant, on arrive à faire des belles associations sans financement d'État, mais à bout bras. Mais c'est très très compliqué. Donc, c'est une vigilance. On ne peut pas dire que tout est merveilleux et parfait, ce serait trop beau de le dire. Mais je pense que c'est vraiment, je pense, dans notre. Dans tous les jours que je côtoie du réseau, c'est vraiment une préoccupation de se dire comment on arrive à être de la vigilance à ce que les choses soient bien faites. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que on lâche le bébé et on le passe à des professionnels. Et est-ce que ces professionnels vont être dans le même souci que nous, pour nos enfants? Et c'est une vraie préoccupation. Est-ce que c'est un petit. Pas, mais c'est une vraie préoccupation et sincère des parents qui ont monté chacun des projets dans ces âmes. Après, comme ça a été dit tout à l'heure, on souhaite tous que les murs tombent, que nos enfants ils aient des vies la plus proche possible de l'ordinaire, quand l'ordinaire n'est pas tout à fait atteignable, mais que ça soit la petite maison dans le lotissement avec deux, trois copains en cohabitation et puis une vie extérieure riche avec du travail, avec de la participation sociale, aller au cinéma, au restaurant, faire comme tout le monde. Ça, c'est l'ambition qu'on a tous. C'est compliqué à mettre en place parce qu'il faut des moyens, comme on dit, pour aller au sport, pour aller partout. Mais, très sincèrement, moi je le vois, je suis toujours impressionnée par la force les parents, même encore actuellement, malgré tout ce qui se passe, c'est ça qui peut être découragé, les nouveaux parents en plus nous poussent avec encore plus de projets. Et c'est toujours plein d'espoir parce qu'ils ont une détermination à trouver des solutions. Des fois, là, on pense qu'il n'y en a pas forcément. Si c'est réalisable, voilà, rien n'est impossible, c'est ça, hein. Enfin, je crois qu'on se peut se mettre ça. Et être vigilant. Je ne peux pas dire autre chose. Il faut être là pour former les professionnels qui accompagnent les enfants. Il faut être attentif à ce qui se passe quand il y a un accompagnement. Voilà. Je passe un petit mot. Quelqu'un.
Merci beaucoup. Donc, juste quelques remarques suite à l'intervention de Stéphane Louvrier. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit. Par contre, c'est juste le terme de neurodiversité qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un terme qui, pour moi, regroupe une idéologie qui parfois fait l'objet d'une mauvaise récupération où on montre que tout est génial, tout est beau. En fait, non, si on va réellement voir le cœur de ce courant et les tenanciers actuels, bon, c'est un peu partout, mais je veux dire qu'il y a vraiment une idéologie qui est, c'est le handicap qui est au cœur de ça, mais en fait, il est vu comme une différence, et le handicap est vu comme des besoins spécifiques. Et c'est pour ça que ce n'est pas le courant qui est le problème, c'est la mauvaise récupération. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut distinguer ce qui est dit dans les réseaux sociaux par rapport à l'intervention de la personne autiste avant moi. Et donc, bon, je suis pareillement autiste, mais c'est pas grave. Et donc, la différence que fait Steph, c'est que je suis totalement d'accord. Il y a des professionnels de l'autisme, autistes ou pas, mais qui sont formés. Et après, il y a les profanes à côté qui disent un peu tout et n'importe quoi. Donc il faut vraiment bien faire la différence. Et ce n'est pas parce que c'est sur Facebook que ça a une légitimité particulière, parce qu'il y a je ne sais pas combien de followers. Et là, vraiment, il faut avoir un respect pour tout professionnel de l'autisme qui est vraiment désolé de connaissance et qui peut avoir les repérer. Une dernière chose qui n'a pas été dite, les gens restent là. Le problème, le gros problème des personnes autistes, c'est la discrimination. Et donc, ça va au-delà, même s'il y a des compétences, il y a une discrimination énorme. Et c'est là que la sensibilisation de la société, il passe aussi par l'État pour rejoindre le discours qui était dit tout à l'heure. Effectivement, l'État doit véhiculer l'image plus positive de l'autisme, pas comme quelque chose à éradiquer. Et donc là, ce sera déjà une avancée. Par exemple, le mois de l'autisme, il y a que les personnes TSC qui sont au courant. Le reste de la France, au mois de l'autisme, personne ne sait ce que c'est. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci à tous pour toutes ces paroles, parce que ça nous enrichit. Il était prévu au programme un petit pot dans la salle des lumières, sauf que les autorités, pardon, excusez-moi. Cette salle n'a pas pu être mise à notre disposition, donc on regrette. On invite ceux et celles qui veulent nous suivre au café d'initié.
L'invité 8 rue Thénard, juste à côté, à 200
mètres. On fait ça.
Je vais être à la bourse chez moi.
Donc merci et comme ça on continuera quelques échanges entre nous. Merci à tous.
Parce qu'il n'y a aucun lien avec la neurodiversité dans ce qui a été